Chapitre 32, deuxième partie, le peuple parviendra à l'harmonie. Imaginez qu'un certain nombre d'hommes et de femmes, comme nous l'avons exposé au chapitre précédent, se feraient un passage, c'est-à-dire une voie libre à travers les domaines éthériques directeurs, aussi bien individuellement qu'en tant que groupe, et donc pratiquent une grande ouverture jusque dans le triple domaine de l'esprit, de l'âme et de la matière, duquel viennent toutes les forces du salut dans le monde. Si cette activité se manifeste, on ne peut pas tout simplement laisser ces forces agir dans un monde comme le nôtre, car aussitôt ces puissants courants du salut se changeraient en force du jugement, en force qui interviendrait en brisant tout et, en peu de temps, mettrait fin au monde par le feu. Car les conditions de la sphère matérielle et l'emprise des forces de la sphère réflectrice sur le monde et l'humanité sont telles qu'il n'y a tout simplement personne qui pourrait réagir harmonieusement à ces puissantes vibrations. Il faut donc que celles-ci soient transmutées et que les serviteurs dont le dessein est d'agir sur l'humanité avec les forces du salut et de lui offrir ces forces pleines de grâce aient d'abord préparé un sanctuaire, un temple, comme base, comme chantier consacré pour la mise en pratique de la magie gnostique. Ce chantier devra donc remplir toutes les conditions exigées. Posséder de tels chantiers, de tels temples, pour exécuter le travail gnostique magique, a également toujours été l'intention des hommes qui se tenaient à l'arrière-plan de la construction de beaucoup de belles et puissantes cathédrales érigées au cours des siècles. Peut-être vous rendez-vous compte que nous abordons maintenant ce sujet comme un terrain de travail complètement nouveau, sur lequel la plupart des élèves de notre école ont encore à faire leurs premiers pas. Pour beaucoup, le temple était jusqu'à présent uniquement un lieu où se réunir pour célébrer les services de temple, services que, faute de temple, on pourrait aussi célébrer ailleurs, ou, si le temple était trop plein, qu'on écouterait dans d'autres salles au moyen d'une sonorisation. Bref, c'est là la conception protestante des choses, qui a abaissé la signification d'un sanctuaire jusqu'à le ramener à un élément de nécessité ordinaire. Si vous réfléchissez à cela, il vous apparaîtra que le développement d'une école comme la nôtre n'est certainement pas encore terminé et qu'il y a encore beaucoup à faire pour une juste préparation. En outre, nous n'avons pas à nous baser sur des formes de culte déjà pratiquées depuis des siècles, ni sur des coutumes banales et ordinaires. Nous devons nous engager dans une pratique qui repose sur la qualité intérieure et sur la préparation intérieure. Voilà la raison pour laquelle nous espérons que vous comprenez ce dont il s'agit et que vous êtes décidés à devenir au plus vite aptes à ce saint travail de temple par votre préparation intérieure. D'autant plus que le temps est maintenant arrivé. Le travail de temple est devenu nécessaire. C'est un travail intérieur qui émanera de nos temples comme un nouveau champ de rayonnement bienfaisant et englobant tout. Vous vous demandez quelle tâche est assignée ici à la magie gnostique. Nous répondrons par ces paroles de Lao Tzu. Si les princes et les rois pouvaient conserver Tao, les 10 000 êtres et choses se soumettraient à eux. Le ciel et la terre s'uniraient et feraient descendre une douce rosée. Et, sans commandement, le peuple parviendrait de lui-même à l'harmonie. Examinons de plus près cette déclaration. Attirons d'abord votre attention sur l'expression « les 10 000 êtres et choses ». Pour les anciens chinois, ces termes indiquaient l'ensemble de tout ce qui est né de la nature. Quand le champ des rayonnements gnostiques magiques se met à agir sur le plan horizontal en s'étendant jusqu'à la terre, la première conséquence est que tout ce qui est né de la nature lui devient soumis. L'influence des prêtres rois n'intervient pas pour un jugement, il s'agit d'un rayonnement reçu et transmuté par la phalange sacerdotale qui répand le calme et la paix. Ces influx commencent par interdire l'accès à toutes les influences venant des sphères éthériques du champ de vie matériel. De ce fait, ils établissent dans le monde une nouvelle base pour la masse et ses autorités afin, sans ordonner ni exercer absolument aucune contrainte, de trancher les conflits, de jeter un pont sur l'abîme béant et de rendre possible l'impossible. Vous comprenez qu'ainsi, ciel et terre s'uniraient, que seule demeurerait une sphère réflectrice très isolée qui finirait normalement par disparaître. Car, par le canal qui se déverserait dans les temples de la fraternité gnostique et par le rayonnement supranaturel qui se développerait de ce fait, ces temples, pour ainsi dire, couvriraient la terre d'une douce rosée. Il ferait disparaître comme d'elle-même les grandes oppositions qui divisent les hommes entre la surnature et notre champ de vie. C'est pourquoi la gnose et l'homme gnostique n'ont pas besoin, par exemple, de se mêler des conflits politiques. C'est pourquoi la gnose n'a pas besoin, comme l'homme dialectique, de déverser des torrents de critiques sur le monde et l'humanité. Ne jugez pas ceux qui, en fait, ne méritent pas votre jugement. Car vous comprenez que les influences de la sphère éthérique, laquelle, en raison de sa nature, assimile tous les péchés de l'humanité, les vivifie et les reflète, provoquent maintenant une déshumanisation qui dégrade toutes les valeurs humaines naturelles et finalement les supprime. Voilà la raison pour laquelle la masse vit et agit comme elle le fait. Et les autorités agissent sur elle et la dirigent entièrement selon sa nature. La masse entière est ainsi devenue prisonnière parce que orientée sur elle-même. Et son angoisse l'incite à se comporter selon la loi de l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent. Chacun se cherche la meilleure place, de violentes disputes éclatent et l'on est continuellement en train de se blesser réciproquement par de virulentes critiques. Voyez clairement que pour aider le monde et l'humanité, vous n'avez nul besoin de suivre les pratiques de la masse, qu'il n'est pas nécessaire de vous déclarer contre ceci ou pour cela, que vous n'avez pas à prendre parti pour ou contre tel ou tel éon de la nature. Vous devez seulement éveiller votre âme vivante en développant un nouveau comportement digne et vigilant et à vous tenir ainsi dans le temple en tant qu'humain sacerdotal. À partir de là, du centre du temple et du champ de vie qui vous entoure, vous ouvrirez, avec le nouveau champ de rayonnement supranaturel, de larges et nouvelles possibilités pour d'innombrables personnes. De la sorte, vous interviendrez de façon tout à fait impersonnelle dans les conflits personnels, oui. Vous rendrez les guerres impossibles et apporterez la paix sur terre. Par votre comportement d'homme nouveau, vous accomplirez la volonté de Dieu sur terre au service de tous les courants de vie. Et en ce qui concerne les sphères éthériques, elles non plus ne sont plus nourries par le champ de vie naturel. L'illusion ne prendra plus forme et la sphère éthérique sera ainsi purifiée d'une manière parfaitement naturelle. Toutes les formes illusoires privées de leur source se dissiperont comme des nuées. Tous les éons de la nature sustentés artificiellement devront se conformer à la volonté et à la loi de Dieu et y changeront totalement. Vous voyez également comment le caractère de la nature dialectique en sera changé et comment la vie aura de nouveau un sens dans la manifestation universelle. La terre sera à nouveau l'école d'apprentissage de l'éternité et la roue de la naissance et de la mort reprendra un sens profond. Toute l'humanité, telle qu'elle existe actuellement en tant que masse, sera rendue à sa vraie vocation. Et tout cela sera l'œuvre de la magie gnostique. Le grand adversaire le sait. Il sait que son heure est venue, et c'est pourquoi un ultime combat sera nécessaire contre tout ce qui est ténèbres. Vous devez bien comprendre le concept combat. Il s'agit d'un tout autre combat que celui que le monde connaît et pratique. Du combat de l'amour de Dieu avec tous les moyens qu'il possède pour remporter la victoire. Une victoire à laquelle tous auront part et qui n'a pas de fin. De la sorte, nous vous introduisons dans le travail qui commence maintenant. Un travail entrepris par des personnes, pour des personnes, totalement selon la volonté et la loi de Dieu. Un travail dont personne ne pourra dire « c'est moi qui l'ai fait ». Car il s'agit ici de la mise en œuvre de la force divine en vue de la béatitude de tous. Comprenne qui pourra.